Vous écoutez
RMC. Les Paris RMC, midi 13h.
Flora Moussi.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Salut à tous, bienvenue dans les Paris RMC, votre rendez-vous des parieurs tous les week-ends de midi à 13h. Cette émission, c'est aussi la vôtre. Alors on vous attend au 32-16 ou sur WhatsApp au 06 12 424 424. On vous attend notamment tout à l'heure hein, pour participer à la battle des supporters pour gagner des offres sur le site de notre partenaire. Faible actualité football en ce moment, ça n'échappait à personne, évidemment, en tout cas sur le terrain, parce que sinon Gianni Infantino fait des siennes. On va se projeter sur la prochaine saison de Ligue des Champions. Qui va l'emporter? Qui sera finaliste? Quelles équipes françaises sortiront des poules? On se posera toutes ces questions, cote à l'appui, évidemment. On pariera aussi sur le Tour de France féminin qui démarre aujourd'hui depuis Lausanne, à suivre en intégralité tous les jours sur RMC, mais aussi sur le tennis, sans oublier évidemment la banquerolle de la Dream Team en fin d'émission. Allez, c'est parti pour les Paris RMC.
Les Paris RMC.
Et une belle tête de vainqueur.
La Dream Team du jour avec Johan Guillet. Salut Johan.
Salut Flora, salut à toutes et à tous.
Elle se porte bien sa Dream Team en ce moment ou pas?
Elle se porte plutôt très mal, hein. On est plutôt très mauvais. Mais aujourd'hui est un autre jour.
Moi j'ai rien à voir là-dedans, je le précise tout de suite, comme ça je suis totalement extérieur. Lionel Charbonnier aussi évidemment, rendez-vous des parieurs. Salut Lionel.
Salut Flora, salut Johan, salut à salut toutes Gino. Et à tous, salut aux copains qui m'entendent et voilà, bah bienvenue au club Flora, si tu veux faire partie des cancres,
des losers. Petit siège. Je vais y penser Lionel, c'est très tentant effectivement, dit comme ça. Pascal Duprat aussi est avec nous, salut Pascal.
Salut Flora, salut Johan, salut Léo et salut à toutes et à tous.
J'espère que vous êtes en forme messieurs, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de foot en ce moment, vous tenez le coup, ça va?
Ça va, ouais.
Ça va. Oui.
Ils sont sevrés, mais ils sont contents, tu vois, finalement. Ils sont contents
c'est
d'être un petit plein, peu.
C'est Infantino.
Ouais, c'est ça, c'est Infantino. On démarre avec l'affiche des Paris RMC tout de suite.
Les Paris RMC,
le foot européen.
Eh oui, parce que l'affiche, justement, on ne la connaît pas pour le moment, mais on peut essayer de se l'imaginer. On va se projeter sur la prochaine saison de Ligue des Champions. Le PSG va-t-il réussir l'impensable et remporter un troisième titre consécutif? Qui peut bien venir embêter les Parisiens dans cette quête folle et qui peut créer l'exploit? Déjà un tour de table rapide, messieurs, qui va remporter cette Ligue des Champions 2027, selon vous? Pascal.
Triplé PSG.
Lionel.
Back to back to back.
Ah oui, tout le monde est d'accord. Johan?
C'est des petits bras, hein. Triplé PSG.
Ah oui, d'accord. J'imagine que les cotes, elles sont plutôt dans ce sens-là.
Oui, Paris est favori. La cote est belle quand même. C'est 5,75. La victoire du Paris Saint-Germain qui reste favori du coup pour ce back to back to back. Le Bayern arrive derrière à 7. On monte à 7,50 pour Arsenal, le Barça et le Real. On monte à 8 pour Manchester City, 11 pour Liverpool. Et tout de suite, on arrive sur du 20 Manchester United, 30 Atlético de Madrid, 30
20
également
Manchester
Interminant.
United alors qu'ils reviennent en Ligue des Champions.
Exactement, okay. C'est une belle cote. Hein.
Ouais, finalement, ça
vous faites partie des presque favoris. Vous êtes devant l'Inter également qui est à 30. Donc voilà, après tout de suite Aston Villa 40, Borussia Dortmund 60, AS Rome 75, même cote pour Naples. Et enfin, ce que je sais que cette petite cote va plaire, Côme est à 100.
Ah.
Bah voilà, qu'est-ce que vous attendez messieurs? Non, plus sérieusement, le PSG c'est une évidence totale pour vous, Pascal?
Une évidence, bien entendu, par rapport à eu égard à ses résultats, le fait qu'ils aient réussi le back-to-back, que l'effectif, même s'il va bouger en quantité, en qualité, reste quand même le stable, avec de jeunes joueurs qui ont pris beaucoup d'expérience, un entraîneur qui fait l'unanimité, et un club qui est aligné à tous les étages. Donc le Paris Saint-Germain sera encore un des grands favoris de cette compétition, à n'en point douter.
On rappelle quand même, Lionel, que ce back-to-back-to-back a été fait par le Real Madrid d'un certain Zinedine Zidane. Ça reste, non, je le dis parce que ça reste un exploit total. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Déjà d'avoir réussi pour le PSG à conserver son titre. Voilà, exactement. C'était déjà un exploit. Et là, tu crois que pour une année supplémentaire, Paris est capable de marquer l'histoire comme ça?
Oui, et je rejoins Pascal dans tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire que c'est un effectif, oui, qui va être modelé, mais qui quand même a de fortes bases, qui a déjà gagné avec des jeunes joueurs qui ont pris une expérience extraordinaire. Je pense aussi que maintenant, bien plus qu'auparavant, et ça sera de pire en pire, parce que si jamais ils arrivent à passer comme on le pense, comme on l'espère, les écueils, le PSG va rentrer dans la tête de ses adversaires. et à chaque fois on dira encore que, tu vois, comme on dit à chaque fois, ah bah ouais, mais ils ont eu de la chance, ils ont joué une équipe qui a pas joué, on les a pas reconnus les adversaires, on les reconnaît jamais les adversaires, mais ça va être de pire en pire, à condition que le PSG reste sur cette lignée. Et je pense que le rafraîchissement de l'effectif, avec des joueurs nouveaux, tout ça, qui vont vouloir s'inscrire dans ce qui a déjà été fait, et surtout pas être les mauvais élèves qui vont tirer le PSG vers le bas, je pense que ça va être un vrai atout.
Et c'est vrai aussi, Pascal, on est en pleine période estivale, période de mercato, ça bouge un petit peu partout, on sait toujours pas si Bradley Barcola va partir, a priori oui, puisqu'il a un bon de sortie et que Liverpool est très intéressé, mais il y a encore beaucoup de choses qui peuvent bouger, et même ça ne t'effraie pas finalement dans cette continuité avec Luis Enrique, tu fais confiance justement au coach espagnol pour continuer d'avoir cet impact sur le groupe parisien?
Oui, il a l'impact total sur son groupe. En plus, il gère ce groupe de façon magistrale. Le turnover est toujours appliqué de façon subtile. Et puis les choses sont claires. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, quand un club est aligné à tous les étages, c'est beaucoup plus facile pour l'entraîneur, même si cet entraîneur est un entraîneur à succès. Et il y a personne qui vient le contrer, personne qui vient l'empêcher d'imposer son dictat. Et les joueurs, à partir de ce moment-là, sont tout d'un coup beaucoup plus sages et beaucoup plus disciplinés. Mmh. Donc ça va être encore le cas au PSG la saison prochaine. Moi, je suis impatient de voir l'issue du mercato, parce que malgré tout, le PSG a besoin de renforcer son banc pour durer davantage et pour être encore plus, on va dire, dominateur dans cette compétition de Ligue des Champions.
Lionel, alors, je sais pas, Flora, ouais, excuse-moi, pour compléter ce que disait Pascal, je sais pas si Pascal a suivi. Moi, il y a un secteur, bon, qui m'intéresse énormément, bien évidemment, même si j'adore Safonov et tout ça, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. l'avancante, tu vois, c'est les deux extrêmes. À chaque fois, les gardiens de but sont très très copains avec les numéros 9. Donc l'avancante, oui, j'attends de voir quel sera le véritable numéro 9, s'il en faut un exactement, je ne sais pas, mais en tout cas, le gardien de but, je ne sais pas si tu as suivi, Pascal, moi il y a un gardien que j'ai adoré pendant la Coupe du Monde, je ne sais pas s'il a signé, parce que pendant un moment j'en ai entendu parler, c'est Suzuki, le gardien japonais. Je l'adore. Et je pense qu'il a toutes les capacités réunies. Il a l'humilité, il a cette culture de vouloir apprendre, de se substituer au groupe et tout ça. Je pense que ça serait une formidable recrue. Je ne sais pas s'il est parti.
Non, c'est pas encore le cas.
Non, ouais, je crois pas. Non,
c'est pas. Il n'a pas signé encore.
Non, il a pas signé
avec la Juve d'ailleurs. Parce que la Juve le veut également beaucoup.
Ouais, mais c'est toujours en pourparlers pour le PSG ou quoi, ou ils ont abandonné ou ce que j'ai adoré moi pour ce que disait Pascal et le rejoindre, c'est que le PSG est devenu l'institution bien au-dessus de toutes les velléités des joueurs. On a vu, il y a un joueur ou deux joueurs qui a fait ses marques, il veut partir parce qu'il a pas de temps de jeu. OK, tu veux pas rester, on te propose plus cher. Ouais, mais non, j'aimerais encore plus. Non, bah alors tu t'es pas trop investi, dégage. T'as ton bon de sortie, tu sors. Toi t'es jeune, t'as rien fait, t'as des velléités au-delà du sportif. Eh ben dégage, va voir ailleurs si j'y suis. Et ça, c'est exactement ce que le PSG aurait dû faire dès le début. Ils l'ont compris, ils ont payé très cher. Mais ça, moi j'adore.
Il y a évidemment un nouvel élan qui a été mis en place avec notamment Luis Enrique à la baguette pour ce nouveau projet, j'ai envie de dire, du Paris Saint-Germain. Pascal, on parlait de ces saisons aussi un petit peu à rallonge. T'as pas peur un peu soit de la lassitude, soit de la fatigue aussi des joueurs parisiens qui enchaînent? On a une saison post-Coupe du Monde aussi, ça va rentrer évidemment en jeu parce que beaucoup sont allés loin dans cette compétition aussi.
Ouais, mais on disait la même chose après la Coupe du Monde des clubs. Donc moi je me...
Oui, mais là, on est sur une saison supplémentaire, tu vois. On est après tout ça encore.
Moi, je me risquais à dire que, bien entendu, le Paris Saint-Germain allait avoir une préparation tronquée. C'est pas le cas cette fois-ci. Ils ont eu davantage de vacances. Je fais confiance à Luis Enrique, au staff, athlétique du Paris Saint-Germain. Les joueurs, tous les grands joueurs ont fait la Coupe du Monde. Tous ces grands joueurs sont dans les grands clubs européens. Donc tout le monde est placé sur la même ligne au départ. Le Paris Saint-Germain va gérer. La quantité, bien sûr la qualité, mais surtout la quantité de la qualité de cet effectif fera la différence. Donc j'attends le PSG avec un recrutement un peu plus conséquent pour faire en sorte que les lignes soient couvertes, doublées à tous les postes et que le PSG puisse voyager dans toutes les compétitions. Ça sera le cas.
Il y a eu un truc, Pascal, hein, que je, alors je sais pas si, si toi ça t'a choqué. Moi, ça m'a choqué, mais dans le bon sens. C'est, et je pense personnellement, bah voilà, j'ai pas l'expérience, je m'appelle pas Enrique et tout ça. Je l'aurais certainement pas fait. C'est renouveler des membres de son staff pour ne pas se répéter et s'enfermer dans les mêmes idées. J'ai trouvé ça très intelligent. Renouveler aussi son staff pour avoir de nouvelles ouvertures d'esprit.
Compléter. Ça, c'est génial. Ouais, ouais, compléter, améliorer. Ouais. En fait, c'est l'avantage des grands. Il est à la tête d'un grand club et ce grand club a compris que l'encadrement est extrêmement important. Aujourd'hui, on prépare bien sûr des équipes, des collectifs, mais surtout des individualités. Donc, la préparation athlétique, elle est peaufinée, elle est individualisée. Et Luis Enrique est un orfèvre en la matière. Il mène un staff conséquent. Et le Paris Saint-Germain l'ont montré la saison dernière avec des blessures successives dans l'effectif. Mais des joueurs qui, chaque fois qu'ils sont rentrés, ont retrouvé un niveau très vite, très acceptable. Une forme très vite optimale pour aller là où ils sont allés, c'est-à-dire sur le toit du monde, de l'Europe, pardon, une deuxième fois.
On verra si votre cote est la bonne. Messieurs, vous nous avez parlé de qui? Alors, en challenger numéro 1, redis-nous peut-être qui arrive derrière, le Bayern Munich, je crois,
c'est
en première
Bayern,
position.
Exactement, qui est à 7, Arsenal et le Barça à 7,50. Même cote pour le Real Madrid, Manchester City est à 8.
C'est un petit peu toujours les mêmes noms de clubs, pardon, qui reviennent, évidemment, à messieurs. Mais Lionel, ce serait qui, alors, le finaliste avec le PSG?
Bon, le finaliste, ouais, je verrais le Bayern, mais je croyais que c'était une surprise. C'est après la surprise, Flora, ou pas?
Non, il ouais, y a l'outsider.
Non, c'est l'outsider maintenant.
L'outsider.
L'outsider, alors pas le finaliste. Pas le finaliste, alors.
L'outsider.
Moi, je vais te donner un outsider.
Le concurrent numéro 1 au PSG. Regarde, ça peut être qui? Je t'ai perdu,
ouais, c'est
là.
Le Bayern. C'est le Bayern. Ouais, non, mais parce que j'avais préparé l'outsider, et pour moi, l'outsider à 100, c'est Como.
Ah.
Qui va sortir, qui va faire la grosse surprise.
Alors, on va passer à la surprise.
La surprise,
puisque
alors,
voilà, on va passer à la surprise, puisque Lionel ne peut pas attendre, effectivement.
Alors, ah non, mais surprise, moi je suis impatient.
C'est, ouais, je vois ça. C'est la cote à 100 pour toi sur Com, là. Vraiment, tu vas y aller.
Ah oui. Ah oui, oui, oui. Moi, c'est-à-dire, bah là, pas pour la finale, mais
qui sortent des poules.
Ah ouais, qui sortent des poules. Moi, je les vois sortir des poules, mais sans problème. D'autant plus qu'ils seront prêts dès le départ. Mm-hmm. Ils ont un coach qui est fantastique, qui reste, qui a eu Fabregas, qui a eu on l'a demandé de tous les côtés.
Ouais.
Il est resté. En tout cas, pour l'instant, c'est toujours comme ça. Il y a des joueurs, l'effectif, il est fait, mais de très très belles manières, entre des joueurs expérimentés, des jeunes joueurs qui vont vouloir se montrer. Comment c'est pareil. On disait la même chose pour, par exemple, pour le championnat italien. On disait ouais, mais bon, ils vont s'éteindre parce que maintenant on commence à les connaître et pas les connaître. Et bah oui, puis non, puis en fin de compte, en championnat, ils s'en sont très très bien sortis. Personne n'arrivait à les contrer. Je pense que ça va être la même chose dès le départ. Je pense qu'ils vont très très bien performé dès les premiers matchs. Il y a même des grosses équipes qui pourraient se faire surprendre. Et donc, je vois comme très très bien placé et sortir des poules, mais très vite. Tu vois, se mettre à l'abri, aller chercher les points qu'il faut.
Ah ouais,
assez
tranquillement.
Vite.
Quoi.
Oui, oui, oui.
Après,
ah
c'était
oui,
déjà la surprise aussi de les voir de toute façon en Ligue des Champions. De les voir se qualifier déjà, c'était la belle surprise la saison dernière
les
en Serie A. Bah,
déjà,
évidemment.
Ouais.
Pascal, ta surprise alors à toi.
Alors, moi, ma surprise. Est-ce une surprise? C'est Manchester United. Voilà, je vois Manchester revenir premier plan européen. Et je suis un fan, bien entendu, des Red
Qu'est-ce
Devils.
Qu'est-ce que tu ferais pas pour te faire aimer de Flora?
Ça oui.
Non,
je
mais
rien dit.
Flora est une épicurienne, une connaisseuse du football. Je suis désolé.
Il m'a écrit, Flora, je vais te dire la vérité. Il m'a écrit, il m'a dit, je suis content, il y a Flora, faut que je la brosse dans le sens.
Mais c'est parfait. Il a trouvé la parfaite recette.
Bravo,
pour ça.
Mais mon
back.
Dieu, mon Pascal.
Après, la cote à 20, franchement, ça se tente.
En plus, la cote est alléchante. Michael Carrick a fait du super boulot depuis qu'il est à la tête de l'équipe.
C'est vrai, ça.
Et le recrutement est somme toute, pour l'instant, on va dire léger, mais intelligent. Tillmans est un super joueur. Donc, je pense que Manchester United peut revenir et faire une très très bonne saison en Ligue des Champions. N'oubliez pas la force de l'habitude et de son public, ça c'est important dans ces compétitions-là. Il n'arrive pas nulle part, c'est pas la première fois qu'il joue cette compétition. Ce club a des habitudes, ce club est un grand club anglais, avec un personnage qui incarne le club parce qu'il a été un joueur de Manchester United sous Sir Alex Ferguson. Donc je mise sur Manchester United et je mise gros.
Ça, j'aime bien.
Nal à 9, hein, d'ailleurs, également.
Très bien. Johan, c'est quoi ta surprise, toi?
Alors, moi, ma grosse surprise, ça va être l'Atlético.
D'accord.
Alors là, on monte déjà au niveau des cotes. C'est 30. Mine de rien, la finale est au Metropolitano. C'est toujours ce petit truc en plus. Je pose une condition qui s'appelle Julian Alvarez. J'avoue
s'il
que
reste...
si Alvarez part, il faudra voir le recrutement qui va avec. Mais je trouve que ce petit effectif construit avec, mine de rien, l'arrivée de Lookman en hiver, Kanginli qui est arrivé là cet été, il y a eu pas mal de départs. Mais Alvarez qui serait en pointe avec une équipe qui jouerait pour lui, là, pour le coup, finalement, même si on sait que la star reste Diego Simeone, je trouve que l'effectif pourrait avoir une belle gueule quand même, selon également les joueurs qui doivent arriver. Une finale à domicile, ce serait quand même la belle histoire. Le club court après, trois finales, trois défaites.
Ça fait longtemps qu'on les a pas vus à ce niveau-là, quand même.
C'est souvent arrivé, ça.
Quand même, demi-finale l'année dernière. Hein,
ouais, j'ai pas de mémoire là-dessus, mais peut-être que vous êtes meilleur. Enfin, vous êtes de toute façon meilleur que moi. Mais oui. Quelqu'un qui sait avant la compétition qui va organiser la finale et qui va effectivement en finale, ça n'a pas dû arriver très souvent.
Le dernier souvenir que j'ai, c'est le Bayern en 2012 et qui perd d'ailleurs contre Chelsea.
Ouais, donc tu vois, ça commence à dater. 2012, c'était déjà il y a 14 ans.
Et ouais.
Ça fait mal quand on dit ça. Ça vous plaît cette petite
mémoire
surprise?
Ma mémoire va pas jusque là, moi.
C'est vrai. Alors,
jusqu'à hier, ça va à peu près.
En fait, Yo, moi j'étais, tu vois, pour les mêmes raisons que tu as évoquées, j'étais presque à dire que ça allait être le flop. Donc, tu vois, je vois pas l'Atlético aller loin, malgré le fait que la finale a lieu dans son antre.
La
condition, tu l'as bien dit, c'est Julian Alvarez, s'il venait à partir.
C'est une très grosse condition, quand même.
Bonne petite balle dans le pied. Et puis, j'ai peur que l'usure de Diego Simeone se ressente à force. Donc, je suis pas allé sur l'Atlético pour en faire un outsider ou une surprise.
On verra ce que donne cette saison de Ligue des Champions quand on se plonge dans tout ça. On a déjà hâte d'y être pour la reprise. La battle des supporters, tout de suite, qui nous ont appelés au 32-16. On a Maxime et Hugo. Salut, messieurs.
Bonjour à tous.
Salut, les gars.
Salut, messieurs.
Salut.
Alors, c'est Maxime qui nous a appelés en premier. Tu as 30 secondes pour convaincre Lionel, Pascal et Johan. Pardon, je vais y arriver, à toi.
Bah alors écoutez, moi je vois bien le FC Barcelone cette année parce que bon, on sait ce qui s'est passé à la Coupe du Monde avec l'Espagne. Ils ont quand même pas mal de joueurs d'Espagne, notamment Kurbasi, Xavi, Olmo, Pedri, Yamal. Ils ont plus bien recruté avec Gordon et Abdini de Dortmund. On sait aussi qu'ils vont prendre un numéro 9 de renom. On pense à Julian Alvarez. Et je trouve qu'après le PSG et le Bayern, bah pour moi c'est un des meilleurs collectifs d'Europe. Donc cette année, je les vois vraiment faire quelque chose en Ligue des Champions. Donc je les verrais bien vainqueurs avec une cote à 7,50.
Pas mal, effectivement. Hugo, à toi.
Alors, pour ma part, du coup, ça devient l'ennemi juré du Barça, c'est Real, et moi, du coup...
Alors, on t'entend pas très bien. Alors, j'imagine que t'es parti sur le Real, si j'ai bien entendu.
Vous m'entendez.
Là, ça y est, on t'entend, vas-y.
Ok, donc je ne bouge plus. Je disais juste qu'avec un recrutement judicieux et XXL, en passant par le coach et les joueurs du côté du Real Madrid, un système de jeu qui sera moins spectaculaire avec Mourinho, mais bien plus efficace comme ces saisons passées entre 2010 et 13, avec une Liga et deux Copa. Pour moi, je vois le Real Madrid relever la tête avec un grand Mbappé cette saison, vainqueur de la LDC, donc à 7,50.
Alors messieurs, qui vous a le plus convaincu? C'est dur, Johan il dit c'est dur. Pascal?
Real Madrid, je me rappelle plus le prénom de l'auditeur,
Hugo.
Mais vraiment 100% d'accord avec toi. Recrutement judicieux, Mourinho.
José Mourinho.
Oui, le dernier tour de Mourinho, le dernier tour vainqueur, mais je le sens. Mbappé, Mbappé surdimensionnel. Je sens un truc exceptionnel de la part du Real. L'équipe à battre pour le PSG, à coup sûr pour moi.
Très bien, Lionel, qui t'a convaincu? Maxime avec le Barça, alors, Hugo avec le Real.
Je te dise la vérité.
Oui.
Personne. Mon flop, c'était le Real.
Ah oui, d'accord. Donc tu vas aller clairement sur le Barça, là.
Bah ouais, parce que pour moi, j'ai peur que justement, c'est avec ces nouvelles générations, toutes ces stars à gérer, Mourinho nous a démontré qu'il n'y arrivait plus. Le vestiaire, il part en live en 3 secondes 12.
C'est dur,
il va falloir. Non, c'est vrai, mais ils sont difficiles à gérer. Attention, parce que c'est un superbe entraîneur que j'adore et que je prends un exemple tout le temps. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais là, ça devient ingérable. Je pense que ce sont des joueurs joueurs, c'est le vestiaire qui est très très compliqué. Et quand ça devient compliqué, j'avais parlé un petit peu avec lui. Lui s'emmerde pas, un star ou pas star, il va se les mettre à dos et puis il va avoir les réseaux sociaux, les machins. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué.
Je vois Bellingham, comment dire, doux comme un agneau tout au long de la saison,
faire
une saison incroyable.
Mais pas le reste. Mais pas le reste.
Je vois quand tu vois Cucurella qui signe au Real. Monsieur et Dumfries et surtout Konaté il est vexé, son mondial il va se relancer à Liverpool. Il y a de cela une saison seulement, bon, il était infranchissable, donc moi je pense que le Real est sur la voie de la rédemption. Attention,
moi, c'est ce qui m'embête.
Johan, il faut que tu tranches, hein,
non, mais là c'est dur parce que de base je serais bien parti sur le Barça, mais la condition Julian Alvarez, c'est pareil que pour l'Atlético, il faut qu'il vienne. Et le Barça, c'est la place d'un neuf, on a bien vu avec un Lewandowski qui était en sous-régime à l'issue de cette saison, le Barça a vraiment galéré en fait. Donc
allez, faut trancher.
Barça.
Ah d'accord. Et victoire pour Maxime. Du coup,
ça fait peur.
Félicitations à Maxime. Tu repars avec 20€ de Freebet et 10€ pour toi Hugo qui nous a appelé aussi. Merci beaucoup les gars d'avoir été avec nous dans les paris sur RMC. Il est midi 28.
Je me trompais pour le Real.
Tu verras bien. On vous retrouve dans quelques instants pour la minute pour convaincre qui arrive. On va parler notamment du Tour de France féminin qui démarre aujourd'hui. Et puis on va parler tennis aussi avec un Français qui est en finale. À tout de suite sur RMC.
Les paris RMC, midi 13h.
Flora Messi.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Il est 16h34, pas du tout, il est midi 34 en fait. Bon appétit à tous si vous nous écoutez sur RMC.
Tu aimerais qu'il soit 16h34.
Peut-être, je ne sais pas. Je suis à l'antenne depuis bien trop longtemps. On est toujours avec Pascal Dupré, avec Lionel Charbonnier, Johan Guillet dans les paris RMC. Aujourd'hui, c'est l'événement avec le départ du Tour de France Femmes depuis Lausanne. La 5e édition a une grande favorite, notre Française Pauline Ferrand-Prévot, tenante du titre et qui va tenter la passe de 2. On va accueillir Pierre Thévenet qui va commenter ce Tour de France tous les jours sur RMC avec Maria Azé. Salut Pierre.
Salut Florent, salut à toutes et à tous.
Salut Pierre.
Alors
salut Pierre.
Je ne me trompe pas Pierre quand je dis que Pauline Ferrand-Prévot est la grande favorite de ce Tour de France 2027.
C'est la tenante du titre en tout cas, et c'est celle qui a assurément le potentiel le plus haut pour tenter de conserver son titre. La petite question, c'est que sa saison n'est pas très bonne, elle n'a pas gagné cette année, elle a terminé 35e du grand tour qu'elle a effectué, elle a fait 2 podiums sur les classiques également, mais elle n'arrive pas en grande forme. Pas d'inquiétude non plus, puisque son vrai objectif était ce Tour de France. Elle a tout fait pour arriver le plus affûté possible. Elle nous disait hier qu'elle a passé un mois et demi toute seule à bosser dans son coin, et que c'était la partie de l'année qu'elle préférait s'affûter au maximum pour arriver au Tour de France Femmes. Elle aura face à elle évidemment Demi Vollering, la néerlandaise championne en 2023, qui a toujours terminé sur le podium du Tour de France et qui est vraiment sa grande rivale, puisqu'elle a l'armada de la FDJ United Suez avec beaucoup de Françaises notamment derrière elle. Ça devrait être un duel entre les deux, même si on pourra en reparler, il y a pas mal d'autres filles qui prétendent à la victoire.
Et tu restes avec nous évidemment Pierre avant de regarder les cotes. Lionel, Pascal, qui va remporter ce Tour de France 2027? Est-ce que vous me lâchez tous les deux un énorme cocorico ou pas?
Moi oui.
Allez Lionel, vas-y, je t'écoute.
Ah ouais, moi oui. Alors même si, attention, parce que cette équipe, Pierre le disait, hein, c'est vraiment une l'équipe de Vollorine, elle est extraordinaire. Il y a même peut-être une deuxième gagnante potentielle dans cet effectif. Donc je pense que, et comparé à l'équipe de Pauline,
ouais.
Et surtout avec ce tracé là dans la montagne, il y a pas de grandes grimpeuses, il y a pas tout ça. Moi je pense que les filles vont travailler, de Pauline, elles vont travailler jusqu'au Mont Ventoux, tu vois, au pied du Mont Ventoux, et après ça va être c'est là que Pauline va faire son back to back
décidément, ouais.
Encore une fois, et que si elle a pas trop de temps, si elle a pas perdu trop de temps avant les grosses échéances, c'est Pauline qui va gagner. Elle s'est préparée en catimini, personne la connaît, elle se connaît très bien. Moi je la vois faire, et bien, je vais regarder en plus. De toute façon, si elle est pas dans, au moins dans les basques, je vais éteindre. Alors
pas de pression, okay. Pauline,
je dis la vérité.
Je dis ça, mais rien.
C'est vrai que je suis chauvin. Oh,
ça arrive. Pascal.
Alors je suis chauvin aussi, j'espère que PFP va remporter un deuxième tour consécutif, mais je crains que Demi Vollering et son équipe, eh bien,
soit plus forte.
Ouais, soit difficile à battre. Et je lis tout ce qui se dit par rapport au tracé, par rapport à l'incertitude de la course. Apparemment, les spécialistes disent que ça pourrait jouer dans les dernières étapes. On joue un match extrêmement serré, deux équipes dominantes. Ça dépendra bien sûr de la qualité et surtout de la forme des équipières pour que les deux leaders soient soulagés. Mmh. Mais voilà, je suis franchement circonspect. J'en appelle de tous mes voeux. Je suis chauvin, je l'espère. PFP gagnante, mais attention à Demi Vollering qui semble avoir envie de sa revanche.
Alors justement, on va regarder les cotes avec toi, Johan. Est-ce que PFP est favorite pour les parieurs?
Et la réponse est non. Elle n'est pas, elle est parmi les deux favorites, mais elle n'est pas numéro une. C'est Demi Vollering justement,
okay,
qui est à 1,90. Pauline Ferrand-Prévot est à 2,75.
Raison de plus pour parier sur Pauline.
Ah bah bien sûr. De toute façon, là, on est sur 66% des parieurs qui sont partis sur cette cote. Évidemment, on est tous cocorico ici. Derrière, après, ça monte tout de suite. Hein. Paola Blasi est à 10, Marlène Reusser est à 12, Anna van der Breggen 15, même cote pour Niedermayer. Voilà, ouais, ça monte assez vite. Il y a vraiment deux immenses favorites pour le coup quand même dans ce Tour de France.
Ouais, Pierre, on l'a compris, tu parlais tout à l'heure de ce duel à venir évidemment sur le Tour. Elles sont presque un petit peu seules au monde, mais tu le disais, il y a aussi peut-être d'autres femmes qui peuvent venir se mêler à la lutte.
Oui, attention, Johan, on a parlé de Paola Blasi qui vient de remporter la Vuelta et qui arrive en grande forme, elle aussi avec une belle équipe chez UAE. Kasia Nevyadoma, que Johan n'a pas cité, mais qui a terminé elle aussi sur le podium des quatre premières éditions, la polonaise. Donc elle sera elle aussi à l'affût pour la victoire finale. Pascal parlait de ses dernières étapes en montagne. Il y aura aussi...
Ah, tu parlais des étapes en montagne, Pierre. Pascal. Premier. Ah, on te perd, on te retrouve.
La dernière du côté de Nice.
Ça y est, non, vas-y Pierre.
Et je disais qu'il y aura une étape d'un contre-la-montre déjà dès mardi, qui est rare dans le cyclisme féminin et qui risque de créer des premiers écarts entre les favorites dès mardi sur la route autour de Dijon.
Alors justement, le contre-la-montre, ça a été un vrai débat aussi, Pierre, pour Pauline Ferrand-Prévot, parce que c'est pas normalement sa discipline de prédilection, mais elle s'est beaucoup entraînée justement pour être performante sur ce tour et pas perdre trop de temps non plus sur cette étape-là.
Exactement, c'est une inconnue en fait, Pauline Ferrand-Prévot sur le contre-la-montre, on ne la connaît pas à ce niveau-là, alors qu'on sait que par exemple la Suisse Marlène Reusser est très très forte sur cette distance. Donc est-ce qu'elle va réussir à lisser son effort et à ne pas perdre trop de temps à ce moment du chronomètre pour ne pas être décrochée avant même les étapes du Mont Ventoux et de la fin de semaine?
Rappelons justement.
J'ai une petite question, Flora.
Vas-y, Pierre. Vas-y Lionel, vas-y.
Excuse-moi.
Non, je t'en prie.
C'est juste par rapport à ce que j'ai entendu, je sais pas si c'est vrai tout ça, et toi le spécialiste Pierre, tu vas pouvoir m'aiguiller. C'est-à-dire que j'ai entendu dire que dans cette équipe de Vollering, il y avait deux super grimpeuses que Pauline n'a pas.
Oui, l'équipe vrai, de la FDJ est plus forte. L'équipe de la FDJ est plus
en
forte,
montagne,
c'est certain.
Parce que ça veut
en
dire qu'à
aussi,
chaque
évidemment.
Fois, il va falloir qu'elle se débrouille toute seule en montagne pour contrer. Parce que voilà, elle peut pas laisser partir même une coéquipière qui pourrait prendre le maillot jaune et ne plus le lâcher après.
Exactement, même si à la FDJ c'est vraiment tout pour Demi Vollering, on nous l'a dit hier, personne ne va viser d'étape, personne ne va viser un maillot jaune, c'est des soldats, des guerrières derrière Demi Vollering, mais c'est des guerrières, tu l'as dit, de très haut niveau. Juliette Berthet et Vita Music sont deux Françaises qui ont fait top 10 l'année dernière sur le Tour de France Femmes. Célia Géry, la championne de France, qui est très forte aussi, est dans cette équipe de Demi Vollering, donc elle a vraiment une équipe plus forte que celle de PFP. À voir si Pauline Ferrand-Prévot arrive à rivaliser face à ce collectif de la FDJ United.
Lionel, j'ai une question pour toi dans le WhatsApp là, qui nous demande, est-ce que tu peux donner des conseils pour bien descendre les côtes en Bourgogne?
Les côtes de nuit si tu veux.
Je pense que tu peux être bon dans ce domaine.
J'ai des bonnes caves en côtes de nuit, ouais. On est bien armés. Mais sinon pour descendre comme il faut, effectivement faut demander à Pauline, hein, parce qu'elle descend bien.
Ça c'est sûr qu'elle sera meilleure sur ce terrain là a priori. Pierre, on va aussi s'intéresser à l'étape du jour, évidemment qui part de Lausanne aujourd'hui. Quel profil, à quoi s'attendre aujourd'hui et quelle femme justement on peut attendre pour la victoire du jour?
Étape de puncheuse, nous a dit Marion Rousse. C'est départ à Lausanne, arrivée à Lausanne. On va passer entre le lac de Neuchâtel et le lac Clément. Ça va être une étape magnifique, en tout cas pour les yeux. Il y a deux options, parce qu'en fait, il y a quatre petites côtes à passer qui ne sont pas très longues, mais qui vont être raides, notamment l'arrivée à la côte de Saint-François, une côte de 2,6 km à 4,6%. L'arrivée est en montée. La question va être donc, est-ce que les sprinteuses vont réussir à passer ces bosses-là et arriver en force? Si le peloton arrive au bout, ça devrait être pour Lorena Vibus, la sprinteuse qui est la meilleure du peloton dans cet exercice-là. là. Sinon, d'autres filles vont avoir leur carte à jouer, plus des puncheuses. Il y a Marlène Rösser, la Suisse de la locale de l'étape qui va jouer sa chance. Lotte Kopecky, également très très forte sur des dérivés pour les baroudeuses. Et puis côté français, on peut parler de Célia Géry qu'on a évoqué, la championne de France qui a 20 ans seulement, qui a gagné une étape sur le Giro également, qui a tout dominé en jeune, qui est vraiment la future pépite du cyclisme français. Elle a sa carte à jouer aujourd'hui. Reste à voir si l'équipe FDJ United va la laisser jouer sa carte et ne pas rester auprès de Demi Vollering.
Pascal, tu tenterais quoi aujourd'hui pour la victoire d'étape ?
Marianne Vos, la coéquipière de Pauline Ferrand-Prévot. Donc il faut une puncheuse, je mise sur elle.
Ok, ça a l'air d'être validé par Pierre. Peut-être qu'on va voir les cotes avec toi, Johan, pour cette victoire d'étape.
Justement, Lorena Vibes est favorite à 2,75. Marianne Vos est la première outsider. Elle est à 4. Célia Géry, Pierre en parlait. Deuxième outsider, elle est à 8. Ensuite, Kimberly Lecourt est à 9. Qu'est-ce que tu avais dit ? Demi Vollering est à 20. Je suis en train de chercher Paola Blasi, 35. Il y avait un autre nom que tu avais dit, Pierre, qui ne me revient pas.
Lisa Longo Borghini.
Lotte Kopecky qui est à 15.
Ça se tente, ça, Lionel ? T'as envie de partir là-dessus ?
Moi, je partirais sur, comme Pascal, sur Vos ou sur notre petite française
bien
de 20
sûr.
Ans là.
Ouais, ouais.
Elle est capable de faire ça, elle.
Est-ce qu'on pourrait démarrer, Pierre, t'imagines l'engouement sur les routes du Tour là, que tu vas traverser pendant 9 jours, si on démarre ce Tour de France direct par une victoire française ?
Ce qu'on n'a pas eu,
ce serait génial, rappelez-vous,
chez les hommes.
Ce qu'on n'a pas eu chez les garçons. Et rappelez-vous, l'année dernière, Maëva Skibank avait pris deux étapes, qui avait été à l'avant pendant tout le Tour de France et qui avait fait rêver pas mal de fans de cyclisme. Sur Marianne Vos, j'en ai parlé avec la vraie spécialiste qui est Maria Azé. Parce que moi aussi, je lui ai évoqué le nom de Marianne Vos. Elle m'a dit, malheureusement, elle n'est pas plus forte que Lorena Vibes sur le sprint. Et que si Marianne Vos passe les bosses, Lorena Vibes devrait passer les bosses également.
Ah, ouais.
Et dans ces cas-là, Lorena Vibes pourrait régler Marianne Vos. C'était un peu le débat du petit déjeuner ce matin, pour tout vous dire. Donc si Maria me disait plutôt Lorena Vibes pour vous dire le prono de la patronne.
Écoutez Maria. Merci beaucoup Pierre. On te retrouve évidemment toute l'après-midi sur RMC avec Maria aux commentaires et à notre consultante aussi Camille Fay pour commenter cette première étape du Tour de France femme. Merci beaucoup Pierre.
Merci.
Il y a une autre course qu'on va suivre aussi cet après-midi, Johan, sur RMC, c'est la Classica San Sebastian.
Exactement, et on a un très très beau plateau, la mine de rien.
Ouais,
on a très jolies cotes à vous proposer. Alors évidemment, il y a, je ne vais pas vous mentir,
un Remco Evenepoel,
un immense favori, par exemple. Un Remco Evenepoel, triple vainqueur de cette classique 2019, 2022, 2023, qui est à 1,40 seulement. Pourtant, tout le monde se rue sur cette cote de ce que je vois sur le site de notre partenaire. Alors évidemment, le premier outsider, c'est Giulio Ciccone, qui a gagné l'année dernière. Il faut le dire, il est à 10. Derrière, Jonathan Narvaez est à 15. Maxime Van Gibbs, 15 également. Même cote pour Richard Carapaz. On monte à 25 pour Ben Healy. Tiens, j'ai oublié Giulio Pellizzari qui est à 20.
T'as pas un petit français à nous proposer
là, il va falloir
descendre. Il n'y en a peut-être pas beaucoup.
Est-ce que je peux t'en trouver un là, mine de... On me souffle Gaudu à 250. On a Benoît Cosnefroy qui est à 125.
Ouais, c'est loin.
Léo Bisio est à 150. On est sur du 3 chiffres pour tous les
Français. Je vais pas vous demander d'aller là-dessus, les gars. C'est un petit peu trop risqué.
Et pourquoi pas?
Ça paraît compliqué, effectivement. Remco Evenepoel, c'est la valeur sûre sur cette Classica San Sebastian que vous allez suivre cet après-midi, notamment avec Jérôme Pinault sur l'antenne d'RMC. Allez, on enchaîne tout de suite avec la minute pour convaincre. On enchaîne.
Non, tant pis.
Bah, On va parler tennis, évidemment, parce qu'il y a un homme qui a brillé cette nuit côté français, c'est Arthur Egea qui se retrouve en finale à Los Cabos.
Exactement, contre Denis Shapovalov. Et tu sais quoi, tu veux du cocorico, je vais te rajouter du cocorico.
Allez.
Arthur Egea, qui n'est pas favori, il est à 2,05. Shapovalov est à 1,60. Egea est en grande forme sur ciment. Il a gagné 8 de ses 9 matchs avec d'abord une finale en challenger contre Alexander Vukic, bon, perdu finalement en 3-7. Vous allez me dire, oui, mais c'était un challenger. Sauf qu'il continue de performer au Mexique avec 4 victoires d'affilée à Los Cabos, avec beaucoup de duels en 3 manches contre Sun Wukong, contre Michael Zheng et contre Francisco Cerundolo. En demi-finale, il a battu Coleman Wong en 2-7. Il affronte un sacré client pour cette finale, il faut le dire. Denis Shapovalov, ancien top 10, 4 trophées à son palmarès et surtout le tenant du titre de ce tournoi de Los Cabos. Un tournoi qui lui réussit, donc il vit pourtant une année très compliquée, mine de rien. Avant ce tournoi, il en était à 9 victoires pour 15 défaites. Je m'attends à un duel équilibré, je vais être honnête, surtout que GA collectionne les tie-breaks et les 3e sets. Je vous propose tout simplement un match en 3 manches entre les deux joueurs. Ça nous permet de doubler la mise. Et si je dois vous donner une petite cote très sympathique, c'est la victoire de notre Français en 3 manches à 4,40. Lucas Van Hacheu a gagné son premier trophée la semaine dernière. Bis repetita.
Quentin Alice aussi, juste
Quentin
avant.
Alice également.
On est sur une série exceptionnelle
back to back
en ce moment. C'est possible. Est-ce que ça vous a convaincu, messieurs, Pascal?
C'était très bien vendu.
Oula.
J'ai l'impression que Chapovalov va gagner. Donc okay. Voilà, je vais dire Chapovalov vainqueur. Et en 3-7 peut-être.
Bah, en Chapovalov vainqueur, c'est 1,60. Et en 3 manches, on est à 3,60.
C'est quoi? C'est ton âme tennistique qui te souffle cette victoire de Chapovalov, Pascal?
Non, c'est le classement. En fait, c'est le classement.
Tu es pragmatique, en fait.
Alors, la forme, bien sûr, la forme du moment, mais s'il est en finale, Chapovalov, c'est aussi qu'il est en forme. Donc,
même mais si. Mais il a un petit peu plus galéré en demi-finale,
voilà,
ouais.
A été plus difficile. Malgré tout, voilà, j'espère. Je veux pas porter la poisse à GA, c'est pour ça que je parie sur Chapovalov.
T'es patriote, en fait. C'est exactement voilà.
C'est très beau comme manière de penser.
Lionel, est-ce que ça t'a convaincu?
Non, moi je serais plus sur Chapovalov aussi. Alors c'est pas que j'ai peur de porter la poisse à GA,
juste,
mais c'est parce que j'ai besoin d'un peu de thunes dans ma banquerolle. Alors un peu plus. Donc non, mais en 3-7 par contre, moi à 3-60 Chapovalov en 3-7. Ouais. C'est pas mal, c'est bien payé. Moi, je resterai plus comme ça.
Messieurs, je vous ai annoncé Alice, je vous ai annoncé Van Hacheu, croyez-moi.
Ouais, voilà, vous l'écoutez pas. Il y a à ce moment, il y a une bonne vibe pour le tennis français, dans les tournois 250. On vient d'en gagner deux de suite.
C'est pour ça.
Bah oui, mais tu.
Je suis resté il y a 3 mois en arrière.
T'es resté sur le down un peu du tennis français, mais non, il y a vraiment une perf à aller chercher.
Tu crois, Flo?
Bon. Moi, je vais sur Arthur Géa. Moi, j'écoute Johan. Moi, je suis Johan.
Tu l'as mis dans ta banquerolle, hein?
C'est une bonne question. Je vais vérifier dans quelques instants. Non, apparemment pas. Ah si, regarde, victoire d'Arthur Géa, 2-0-5. Bien sûr que je l'ai mis.
Bravo, je suis
ma ligne de conduite, mais qu'est-ce que tu crois?
Bien sûr, la cohérence.
Pas pour une fois qu'on a quelqu'un de cohérent.
J'étais pas au courant, mais oui, je suis cohérente apparemment.
Ah non, mais c'est l'ADN de l'émission, hein. Écoute,
on fait une émission où on est pour les Français, on est cocorico, on a dit Pauline Ferrand-Prévot, on dit Arthur Géa, on suit la ligne de conduite. Mais bon, après, si vous préférez miser canadien, les amis, moi, c'est pas de ma faute, je n'y peux rien. C'est vous.
On a besoin d'argent.
Voilà, c'est le pragmatisme de l'argent. Eh bien, on verra, parce que je crois que c'est cette nuit la finale, Johan.
Exactement.
Je crois que c'est dans la nuit.
Dans la nuit, c'est même très tôt le matin. En tout cas, pour l'instant, c'est annoncé à 5h.
Ah oui, bah voilà, tu mettras le réveil, Lionel. Et puis tu regarderas la finale.
Non, j'attendrai le message du WhatsApp de Johan.
Je te l'avais dit, exactement.
Voilà. T'es réveillé?
Allez, la
dernière. Le problème, c'est qu'il fait des copier-coller à chaque fois. Je te l'avais dit, copier-coller.
C'est ça. C'était tellement, ça arrive toutes les semaines, en fait. Allez, midi 50 sur RMC, la dernière ligne droite des paris. C'est dans quelques instants avec le combo jackpot de Johan et la banquerolle, évidemment, à suivre.
Les Paris RMC, midi 13h.
Flora Moussi.
Il est midi.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Je vais y arriver avec ce jingle. Peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Midi 51 sur RMC. Les Paris continuent évidemment avec Christophe Payet, mais non, avec Yohann Guillet, avec Lionel Charbonnier, Pascal Duprat. Tout de suite, justement, c'est le combo jackpot de Yohann.
Les Paris RMC.
Le combo jackpot.
Qu'est-ce que tu nous as préparé?
Ok, c'est parti. Alors, j'ai pris un petit coup sur la cabeça, je ne vais pas vous mentir, parce que j'ai mis Marianne Vos qui gagne la première étape du Tour de France.
Ah, c'est dur?
Oui, c'est dur, mais écoute.
4,50.
Écoute, on prend quand même, malgré tout, on va aller à l'encontre de Pierre. Géa, qui bat Chapovalov en 3-7 à Los Cabos.
4,40.
Merci. Fritz, qui bat Nakashima en 3-7 à Washington.
3,25.
Drogué, qui bat Zversina en 3-7 à Montréal.
3,60.
Et enfin, petit plaisir à côté, 3-7 entre Arango et Boisson à Toronto.
2,10 pour une cote totale à 486,49.
On met son petit billet, on n'est pas loin de 5 000 et on peut même les dépasser avec le booster.
Bon alors les gars, ça vous plaît ou pas? Faut être pointu sur le tennis là, quand
ça
même.
Ça plaira pas à Pierre, ça plaira pas ni à Pascal, ni à Yo.
Pascal, ça te plaît pas? Tu le suis pas surtout.
Pas déconnant, c'est assez plaisant. On a l'habitude de toute façon de se faire tordre par Christophe Payet. Donc tu crains rien, Johan. Écoute, moi je vais te suivre, à l'exception, parce que j'ai envie d'être cohérent, je vais mettre Povalov qui gagne en 3-7 et je crois que c'est 3-60, donc ça doit être une cote comparable. Une faute, donc.
Ah, c'est pas si mal.
C'est pas mal, en vrai.
Pascal, Lionel, pardon.
Tu peux m'appeler Pascal, ça fait moi j'adore. Tu m'aurais donné un autre prénom, j'aurais été mixé, mais là.
Alors même pas si elle t'avait appelé Johan, n'abuse pas, Lio.
Ah t'es si, gentil, ça passe Lio. Aussi.
Allez, vas-y, Lionel.
Non, moi j'écoute un petit peu Maria. Maria, elle a dit que, comment elle s'appelle, Voss aurait un petit problème. Si elle passe les boss, ça serait, comment elle s'appelle,
Vibes.
Ouais, celle qui est favorite. Moi,
j'irais plutôt sur Vibes et puis Chapovalov.
Très bien.
Deux petites erreurs.
Eh ben justement, on va regarder tout ça avec les bankrolls tout de suite. Je démarre moi-même puisque je représente les coiffeurs. Les coiffeurs qui sont très bien placés, 200 euros. Je trouve ça plutôt pas mal. Alors moi, je vais aller sur le podium de Marianne Vos, à 1,80. La victoire d'Arthur Géa, je vous l'avais promis, à 2,05. La victoire d'Evenpool, donc je la joue prudent, à la Classica San Sebastian à 1,50 pour une cote totale de 5,53. Et je vais miser 20 euros histoire de faire grandir encore un peu plus cette cagnotte. Pascal.
Alors moi, je suis encore plus prudent que toi. L'objectif, c'est de prendre la tête tout à l'heure. Podium de Marianne Vos, victoire de Chapovalov, une toute petite cote totale à 2,88 et je mise 10 euros.
Ah oui, t'es très prudent, effectivement, aujourd'hui. Prêt. Johan.
Alors je suis moins pris par cette prudence pour ma part. Je vais proposer quand même Vibes ou Vos qui gagne la première étape, c'est coté à 1,75. 3-7 sans donner de vainqueur entre Géa et Chapovalov, c'est coté à 2. 3-7 également entre Arango et Boisson, c'est coté à 2,10. Ça nous fait une cote totale à 7,35 et je mise 20 euros pour essayer de passer devant tout le monde.
Oh, sur j'aime la bien ce pari.
Merci beaucoup.
Lionel.
Eh ben écoute, moi je vais jouer la victoire de Vibes, la victoire de Chapovalov en 3-7 et la victoire d'Evenepoel. Et c'est une cote à 14.
Et tu mises combien?
Oui.
10 balles.
Oh oui, bah c'est pas mal, effectivement. Franchement, je pense qu'il y a moyen que ça passe, Lionel. Pour une fois, là, peut-être que tu vas être bien sûr. Oui, pourquoi pas. Après, je t'ai dit que j'étais nul en Paris ou pas? C'est maintenant que je te le dis.
C'est bon,
les Paris RMC
avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci beaucoup, messieurs. Merci Lionel. Merci Pascal.
Salut
Pascal, je te retrouve demain dans les GG en plus.
Merci, oui. Voilà, merci Flo.
Plaisir.
Merci à tous.
Merci à Johan. Vous restez bien sûr à RMC. Il est midi 55. Tout de suite, c'est les courses RMC avec Dimitri Blanc-L'œil.